France Culture.
Luc Duchamp, nous sommes devant un caveau qui semble abandonné.
Alors effectivement, on pourrait penser que cette sépulture est abandonnée, mais vous voyez, elle n'a pas de mousse, l'inscription est lisible, et en fait, elle est dans le périmètre des tombes patrimoniales de la ville. Il faut savoir qu'une sépulture, quand il n'y a plus de propriétaires connus, de descendants, des propriétaires qui ont ouvert la sépulture, cette tombe peut être, au bout d'un délai légal, être remise sur le marché. Ce n'est pas le cas de la tombe de Jeanne Chauvin qui demeurera pour toujours.
Jeanne est là, dans ce caveau?
Oui, Jeanne Chauvin et une partie de sa famille.
On lit sur cette tombe « Jeanne Chauvin, avocate à la cour d'appel, chevalier de la Légion d'honneur » et quelque chose que je n'arrive pas à décrypter ici.
Alors, il s'agit des dates de naissance et de décès de Jeanne Chauvin, mais qui sont reproduites à la mode latine. On peut lire la date de naissance de Jeanne Chauvin, 1862, et puis son année de décès, qui est 1926.
Et je vois aussi une inscription en latin, tout à fait en haut de la pierre.
Oui, absolument. C'est une devise qui s'applique particulièrement à Jeanne Chauvin, puisque si on doit la traduire, « Justitia luceat nobis », la justice nous éclaire.
Toute une vie, Jeanne Chauvin, le barreau au féminin, par Dominique Prusac et François Teste.
Dans l'histoire de la République et dans l'histoire des femmes, on rencontre toujours des personnalités rares, exceptionnelles, qui rétrospectivement prennent une place plus qu'honorable, une place essentielle dans la mémoire collective. Et en voici une. Jeanne Chauvin nous intéresse puisqu'elle a eu le courage, la vaillance, la détermination nécessaires pour installer sa présence au barreau, alors que tout le système social affectif, psychologique de ce milieu-là, la refusait.
Elle est la première femme à avoir été inscrite au barreau de Paris, et donc une référence. Une référence d'ailleurs tellement importante que j'ai choisi d'apposer une plaque à la bibliothèque du Palais en 2013, lui rendant hommage, et la bibliothèque d'ailleurs s'appelle la bibliothèque Jeanne Chauvin.
Sa vie a été un combat permanent, je pense, parce qu'elle était féministe. Elle a lutté elle-même pour accéder à des postes, à des bastions qui lui étaient fermés. Et par ailleurs, elle a aussi combattu pour faire changer les lois pour l'ensemble des femmes sur un certain nombre de domaines, sur la situation juridique des femmes, la capacité des femmes, et sur le fait qu'elle ait aussi décidé d'enseigner aux femmes le droit pour justement leur donner des armes. Donc oui, non seulement elle est une combattante, mais je pense qu'elle a voulu donner aussi donner des armes, c'est un vocabulaire viriliste, mais donner des arguments aux femmes pour se défendre en tout cas.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Jeanne Chauvin dans l'Écho de Paris, juillet 1904.
Quelles qualités sont indispensables à la femme avocat ? De l'intelligence, cela va sans dire, de la mémoire, du bon sens, de la pondération. Ah, surtout qu'elle ne s'emballe pas. Une femme brouillonne n'est pas née avocat. Et en plus, il faut du sang-froid, de la bonté. Vous n'imaginez point. Tous les métiers ont ses raseurs, n'est-ce pas ? Ajoutez surtout un grand souci de sa dignité morale et professionnelle. Il faut que la femme avocat soit au-dessus de tous les soupçons, de toutes les insinuations. Un avocat mondain peut voir sa clientèle augmenter s'il a une réputation d'amabilité, mais une femme ruinerait son crédit si elle n'entourait pas sa vie publique et sa vie privée d'austérité et de vertu.
Donc, je m'appelle Michèle Dassas, je suis écrivaine, romancière, spécialisée dans les destins de femmes fin 19e. Jeanne Chauvin est née à Jargeau, sur les bords de la Loire. Elle a donc connu une petite enfance très paisible. Et ensuite, elle est allée à Provins. Voilà, vraiment passé son enfance à Provins.
Après, elle monte à Paris, comme l'on dit.
Oui, parce que les études supérieures vont se dérouler à Paris. Elle va passer donc ses baccalauréats. Mais avant d'aller à Paris, il va se passer un drame dans sa vie parce qu'elle va perdre son père qui va mourir subitement alors qu'elle vient d'avoir 17 ans. Donc sa mère va s'occuper de ses deux enfants, donc de Jeanne et de son frère Émile qui a 8 ans de moins. Et elle va vraiment se battre pour que ses deux enfants fassent des études supérieures et surtout que sa fille ait les mêmes chances que le garçon. Elle a fait des études remarquables pour l'époque, puisqu'elle a deux baccalauréats et sciences et lettres, et qu'elle aura bientôt deux licences, licence de philosophie et licence de droit.
Luc Duchamp, vous êtes le conservateur de la ville de Provins. Et c'est une ville médiévale, Provins, il faut le préciser tout
de
même.
Oui, Provins, c'est une ville qui a connu son heure de gloire à l'époque des comtes de Champagne et principalement pendant les foires des 12e, 13e, 14e siècles.
Et ça a été une ville, et c'est une ville qui a été très appréciée par Jeanne Chauvin. Jeanne Chauvin qui a habité pratiquement en face de nous maintenant. Nous arrivons devant sa grande maison avec une très belle façade.
Tout à fait, c'est cette maison de trois niveaux, qui a une très longue façade sur la rue aux eaux, a abrité l'étude de notaire du père de Jeanne Chauvin. Même si son père est mort assez rapidement, la maison a continué d'appartenir à la famille Chauvin.
Son père est mort quand elle avait 17 ans, tout juste 17 ans, Jeanne Chauvin.
Exactement, et on peut imaginer que ça a dû être compliqué pour elle parce qu'elle était très jeune, et perdre son père au 19e siècle, c'est perdre une partie de ses appuis familiaux. C'est voilà, certainement une difficulté à surmonter pour une adolescente comme Jeanne.
Le père de Jeanne Chauvin était notaire. Peut-être que cela l'a inspirée pour devenir avocate finalement. Elle était dans le droit et les minutes, parce qu'un notaire, il travaille sur des minutes.
Oui, moi j'irais même plus loin, c'est-à-dire que imaginez cette maison remplie de dossiers avec des étagères sur lesquelles étaient bien rangées les archives de l'étude, et les archives d'une étude de notaire, elles peuvent remonter jusqu'au XVIe siècle. Donc je pense que ça a certainement favorisé chez elle, sans mauvais jeu de mots, le goût de l'étude, c'est-à-dire de vouloir faire des études. Et comme un notaire s'occupe particulièrement de droit de la famille, peut-être faut-il y voir une raison supplémentaire pour Jeanne Chauvin de s'être lancée dans la carrière.
Jean-Noël Jeannet, vous êtes historien, vous avez écrit en juillet 1987, il y a presque 40 ans maintenant, un article extrêmement documenté dans le journal Le Monde sur Jeanne Chauvin. Comment pourriez-vous nous présenter Jeanne Chauvin ?
Elle n'a pas été la première féministe de France, en particulier elle a eu des figures qui l'ont précédée au temps de la première grande révolution et aussi en 1848. Mais de fait, elle surgit dans son destin au milieu d'une période qui a été probablement la moins favorable, dans les milieux bourgeois en particulier, à la situation de la femme et à sa capacité de s'exprimer librement, d'agir, de peser dans le cours de la vie sociale, intellectuelle et autres.
Normalement, la femme bourgeoise doit s'occuper de son intérieur et de ses enfants. C'est vraiment le devoir de la femme. Alors, elle peut aussi faire des études pour après pouvoir éduquer ses enfants. Elle peut aussi se consacrer à des arts. On commence à voir des femmes qui peignent, qui... Mais être avocat, c'est considéré comme un métier d'homme.
Je me souviens que Marie Dagou, qui avait été la maîtresse de Liszt à la période de la monarchie de Juillet, disait un jour à ses filles, Au fond, je vous plains. Moi, j'ai pu avoir une vie relativement libre encore, mais nous entrons dans une période de glaciation. Nous entrons dans un moment où la situation des femmes de la bourgeoisie va être de plus en plus difficile, où elles vont être de plus en plus cantonnées dans des rôles qui nous apparaissent subordonnés. Et de fait, s'ouvrait à peu près un siècle de cette nature, même si certaines professions se sont montrées dès ce moment-là un peu plus ouvertes. Certaines femmes journalistes, par exemple, Madame de Girardin, ou ensuite Séverine. Le monde de la médecine aussi, peu à peu, a laissé quelques places aux femmes doctoresses, comme on disait à l'époque, notamment pour s'occuper des femmes elles-mêmes. Et puis, la profession d'enseignant, pour les lycées de jeunes filles, tout ça relativement progressé. Mais il restait que la femme était mineure, en termes juridiques, continuait d'être dominée par son mari, et l'atmosphère générale de la bourgeoisie de ce temps-là considérait que c'était naturel et peut-être nécessaire. Et c'est ce qui émerge lorsque l'on s'attache au combat de Jeanne Chauvin.
Jeanne Chauvin, 1904.
Inexorable et dur envers tout le monde, le code Napoléon était plus implacable encore vis-à-vis des femmes. Il leur donnait tous les devoirs et leur déniait presque tous les droits. Ce code Napoléon a pesé sur nous comme une chape de plomb, et nous sommes encore bien loin d'en avoir secoué le poids écrasant. N'est-il pas étonnant d'avoir à constater que nous n'avons pu encore obtenir que, dans le mariage, les gains personnels de la femme demeureront des biens propres sur lesquels elle aura tous les droits d'un propriétaire ?
Elle a l'idée de poursuivre des études de droit. Son frère vient de s'inscrire à la faculté de droit et elle décide de faire la même chose. Donc ça, c'est vraiment tout à fait novateur pour l'époque. Il n'y a pas eu de femme avocate, bien sûr, puisque la loi ne le permet pas, mais elle sera la deuxième femme à se présenter au doctorat de droit. Et la première femme française à obtenir son doctorat de droit. La licence en droit suffisait pour être avocat. Mais pourquoi va-t-elle encore plus loin? C'est parce qu'elle a ce virus du savoir et d'aller au fond des choses. Et c'est pas anodin si elle choisit comme thèse de doctorat études historiques sur les professions accessibles aux femmes. On voit déjà ce qu'elle a derrière la tête. Elle veut vraiment prouver que les femmes doivent pouvoir exercer les mêmes métiers que les hommes si elles en sont capables. Et donc, si elles ont fait des études et qu'elles ont eu des diplômes, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas exercer ces professions.
Hélène Dufulère-Vial, maîtresse de conférences en histoire du droit.
Dans ce doctorat, elle explique que l'accès des femmes à certaines professions a été bloqué par l'importance du christianisme, du catholicisme. Et c'est intéressant parce qu'elle développe ça de manière, ses arguments de manière assez stratégique. Nous sommes dans le contexte de la Troisième République, dans un contexte de laïcisation. Donc en fait, on sent bien que dans sa thèse, qu'elle essaye de convaincre, en fait, de dire nous sommes à l'avènement d'une nouvelle ère dans laquelle on veut une république moderne, laïque, et donc il faut se débarrasser des superstitions et de tout ce qui empêtre tout ce qui gangrène la société, et notamment l'importance et du poids des superstitions issues de la religion. Et donc c'est cet argument-là qu'elle développe pour dire qu'il faut libérer la place aux femmes pour aussi les s'inscrire dans une ère moderne.
Jeanne Chauvin, thèse de doctorat, 1892, introduction.
Comment définissez-vous les femmes ? Un animal naturellement faible et malade. Je conviens qu'elles sont souvent l'un et l'autre, mais je suis persuadée que c'est un effet de l'éducation, du système de nos mœurs, et point du tout de la nature. C'est en ces termes piquants que Diderot, dans un curieux dialogue, pose la question de la nature de la femme et de la responsabilité des divers contrats sociaux en ce qui la regarde. Si, comme le dit l'un des interlocuteurs, la femme est un animal naturellement faible et malade, il faut la tenir à l'écart des fonctions qui réclament la réflexion, la santé et la force. À créature débile, la tutelle est indispensable. Si au contraire, la faiblesse de la femme est un effet de l'éducation, si elle est la conséquence d'une législation injuste et oppressive, il y a devoir et utilité à réformer cette législation.
Jean-Noël Jeannet, Jeanne Chauvin,
écrit une thèse qui s'appelle « Études historiques sur les professions accessibles aux femmes ».
En droit romain et en droit français. Donc elle prend le recul historique qui va donner de la force à son propos.
Elle s'était vraiment préparée, elle avait travaillé énormément. Elle était tout à fait prête à soutenir cette thèse. Et on en a parlé dans les journaux. Donc les gens savaient qu'elle allait soutenir cette thèse. Et il y a des jeunes qui ont fait un charivari, qui sont mis à chanter la Marseillaise, qui ont fait du bruit pour l'empêcher de parler.
Non seulement les vieux crabes professeurs étaient indignés d'être obligés d'en arriver là, certains étaient plus ouverts, c'est cela qui a permis à Jeanne Chauvin de soutenir cette thèse, mais d'autre part, les étudiants eux-mêmes sont arrivés, ont chahuté, ont protesté. Autrement dit, la glaciation psychologique et sociale des hommes en face des femmes n'était pas seulement le fait des générations avancées. Ces jeunes gens, tous évidemment favorisés à l'époque, des étudiants, qui trouvaient insupportable l'idée qu'une femme puisse soutenir une thèse comme ça. Et peut-être pensaient-ils tous qu'ils souhaitaient que quand ils seraient mariés, après avoir dépassé l'âge des maîtresses, ils auraient à la maison quelqu'un qui veillerait à l'éducation des enfants, à être une hôtesse pour leurs amis agréable. C'est vraiment un moment très sombre pour la situation de la femme. Et un épisode comme celui-là qui tranche sur cette ambiance est très révélateur.
Jeanne Chauvin, elle est seule femme face à un jury composé exclusivement d'hommes. Et notamment la profession d'avocat, c'est l'idée quand même d'une joute oratoire, d'une passe d'armes. Ce sont des termes qui sont utilisés, d'un combat judiciaire. Et donc là, on est sur des bastions vraiment masculins où on a l'idée que les femmes n'ont pas leur place parce que ce serait une transgression presque identitaire. On peut trouver sous la plume des opposants aux femmes, enfin en tout cas à l'accès des femmes à la profession d'avocat, l'idée que l'art oratoire, c'est comme presque un jet séminal, quoi. C'est l'idée d'une approche viriliste et presque, comment dire, phallique de la profession, quoi. Donc avec cette idée que les femmes n'ont absolument pas à être présentes dans ces espaces-là.
Jean-Noël Jeannet, il y a une formule qui suit partout Jeanne Chauvin, c'est celle-ci, robe sur robe ne vaut. Comment peut-on la décrypter ?
C'est un des multiples moyens hypocrites que les hommes qui avaient à l'époque le pouvoir ont utilisé pour le refuser. Et dans les débats parlementaires, on en a souri. Certains ont dit, mais elle va porter tellement mal cette robe, ça va être bizarre. Et les partisans de Jeanne Chauvin et de l'évolution ont répondu, mais attendez, vous vous habillez avec une robe, ça ne paraît pas bizarre.
Tout un argumentaire va être développé autour de cela. Et notamment, je crois que c'est au Sénat, oui, c'est au Sénat, cette idée que sous la robe de l'avocat, pendant les grandes plaidoiries, pendant les grands procès au pénal, eh bien, l'avocat a très chaud. Donc, sous sa robe, en fait, il se débrouille, il se débraille, il ouvre son pantalon, il est en toilette désordonnée pour justement pouvoir ventiler. Et ce qui va être avancé donc, au Sénat, c'est que de tels arrangements avec la toilette seraient impossibles pour les femmes. Donc, les femmes ne pourraient pas être bien sous une robe d'avocat.
Elle va être amenée à rencontrer d'autres femmes qui ont des points communs, puisqu'elles veulent faire bouger les lignes. Alors, elle fait connaissance d'abord de Jeanne Schmal. Elle lit son nom dans les journaux et elle décide d'aller la rencontrer. Jeanne Schmal est une féministe qui a créé une association qui s'appelle l'Avant-Courrière et qui s'est fixé deux buts. D'abord, que les femmes puissent témoigner dans des actes, qu'elles puissent signer. Parce que jusqu'à maintenant, elles ne pouvaient pas signer. Il fallait même aller chercher quelquefois un homme qui signait d'une croix. Alors, donc, vous voyez, c'est une injustice. Deuxième injustice, ça mettra plus longtemps à être comblée, c'est qu'elle voulait que les femmes mariées puissent bénéficier de leur salaire, donc qu'elles puissent jouir de leur salaire. Donc ça, ça sera un petit peu plus long. Mais Jeanne Schmal va faire connaissance avec Jeanne Chauvin et toutes les deux vont s'apprécier tout de suite. Jeanne Schmal va être ravie de l'aide que Jeanne Chauvin va lui donner en commençant à écrire un projet de loi. Et ce projet de loi qui sera adopté plus tard.
Michel Dassas, comment était perçue par la population ces revues féministes? Parce qu'elle, elle est féministe, ses amis aussi, mais comment tout ça passe dans la population en général?
C'est très divers. Je pense qu'il y a des gens qui sont favorables, et même des hommes. Et puis, il y a même des femmes aussi qui sont tout à fait défavorables aussi à ce genre de prose. Puisqu'il y avait une femme, notamment, qui avait attaqué Jeanne Chauvin en se moquant d'elle, en disant qu'elle n'avait sûrement pas de cœur, qu'elle avait, à la place du cœur, qu'elle avait un livre de droit, vous voyez. C'est variable. Dans les journaux, vous avez des journaux qui vont relater des procès d'une certaine façon et d'autres d'une autre. Je voyais que dans le journal des débats, on va être plutôt sévère avec Jeanne Chauvin, tandis que le Soleil va elle lui être beaucoup plus favorable et même l'encourager, dire que c'est normal après tout, place aux femmes.
Jean-Noël Jeannet, Jeanne Chauvin veut devenir avocate. On lui interdit de devenir avocate. Pourquoi?
On explique que il pourrait arriver qu'un avocat, et donc une avocate, dans certaines circonstances, soit amené à être provisoirement posé dans la situation de juge, de magistrat. À l'époque, c'était concevable dans certains cas. Et alors, naturellement, tous ceux qui sont hostiles à l'idée qu'une femme puisse être avocate... Certains disent, vous imaginez une femme bâtonnière? Il y en a aujourd'hui, comme nous savons, très efficace. Tous ceux qui sont hostiles à cette idée vont se réfugier dans cette hypocrisie. Ce serait affreux. Et par conséquent, la seule façon qu'il y aura de tourner cet obstacle, c'est de changer la loi.
Enfin, c'est pas que la loi s'y oppose, c'est que ce n'est pas marqué que les femmes peuvent être avocats et c'est surtout qu'elles doivent avoir les droits civiques pour être avocats. Alors, il faudra attendre très très longtemps pour avoir les droits civiques. Il faut changer simplement cette loi.
La stratégie de Jeanne Chauvin a consisté à dire « Bon, moi je ne veux pas plaider. Je ne veux pas exercer concrètement la profession d'avocate. Je veux juste avoir le titre. Enfin, d'avoir le titre d'avocat qui finalement serait indifférent au genre. » Et c'est là qu'on trouve donc l'argument adverse qui est de dire « Non, le titre d'avocat, ce n'est pas un masculin générique, c'est un masculin qui, dans certains contextes, peut viser exclusivement des hommes. » Et c'est cet argument-là qui est défendu, et cette idée aussi que, pour cette raison-là, seule une intervention législative peut trancher la question.
Michel Dassas, donc, Jeanne Chauvin décide de déposer un projet de loi à travers son frère qui est à la fois avocat et député. Comment ça se passe après alors?
Oui, sans l'aide de son frère, sans l'aide également de Louis Franck, qui est un avocat belge, je pense qu'elle n'aurait pas réussi. Elle est très courageuse, elle est pugnace, elle sait que de toute façon, elle le dit, elle l'écrit, qu'elle arrivera. Mais sans l'aide de son frère député, qui est député et franc-maçon, qui a des aides au gouvernement, puisqu'il y a beaucoup de francs-maçons et il est radical socialiste, il a des aides. Donc René Viviani, par exemple, va être d'une grande aide, va recevoir également Jeanne, mais ça va prendre quelques années. Il va pour faire changer cette loi, pour arriver à convaincre les députés, il faudra quelques années et beaucoup de salive.
Jean-Noël Jeannet, comment se sont passés les débats parlementaires sur cette proposition de loi proposée par Jeanne Chauvin?
Relire ces débats, c'est tout à fait passionnant pour se replonger dans un certain moment de la sensibilité collective. Évidemment, on fait son miel de l'ensemble des propos tenus par les conservateurs et même les réactionnaires au sens propre, que ce soit à la Chambre des députés, au Palais Bourbon, ou que ce soit au Palais du Luxembourg, c'est-à-dire au Sénat. Voici quelques-uns de ces propos. L'un d'entre eux, qui s'appelait Perrier de Larsan, tient les propos suivants. « Qui vous dit que le plaideur, dans les 24 heures qui lui sont accordées pour maudire ses juges, n'alléguera pas que l'éloquence de l'avocate, de son adversaire, s'est exercée aussi bien par ses yeux que par sa langue ?» On rit. Je ne dis rien là d'extraordinaire. On accuse déjà le magistrat d'une foule de crimes. Il n'y a pas à douter qu'une fois votre loi votée, on ne l'accuse encore de s'être laissé convaincre par d'autres moyens que de bons arguments juridiques. C'est pas mal. L'idée de fond est que la femme doit s'épanouir dans le foyer. Un sénateur particulièrement conservateur, il s'appelait Gourju, redonnons-lui une très brève notoriété, si vous le voulez bien, s'écrit « Je suis tout disposé à admettre qu'en une infinité de choses, les femmes nous sont infiniment supérieures pour tout ce qui touche aux choses du cœur, à la pitié, à la charité, au dévouement pour autrui, aux soins des misérables, des malades ou des blessés, l'homme est incomparablement en arrière de la femme. » Hommage évidemment hypocrite, vous êtes épatante, mesdames, mais dans le cadre évidemment étroit du foyer ou éventuellement évidemment de l'hôpital. C'est la femme de toujours, la femme française en tout cas, parce qu'aux États-Unis, les choses commençaient d'évoluer plus vite.
On prend souvent ces futures avocates pour des séductrices, des femmes qui se laissent déborder par l'émotion et non par la raison. En fait, on les considère pas aussi compétentes que les hommes.
Oui, c'est l'idée que chez elles, la sensibilité l'emporte sur l'intelligence rationnelle. On explique du côté du sénateur Gourju et de ses pairs, ceux qui sont hostiles à l'évolution des choses, on explique que au fond, il y aura deux possibilités. Ou bien, et c'est le plus probable, l'avocate ne tiendra pas la concurrence dans la recherche d'une clientèle qui, je cite Gourju, même pratiquée par des voies licites, demande, je cite toujours, une personnalité virile capable de soutenir le genre de lutte qui rend possible la marche progressive vers les affaires et l'ascension lente vers la clientèle. Ou bien, continue-t-il, elle sera broyée, ni plus ni moins, et elle subira les déceptions de manière encore plus amère parce qu'elle est plus nerveuse que l'homme. Voilà, elle est plus nerveuse que l'homme. Sa nature est différente et qu'elle a souvent moins de philosophie. Ou bien elle parviendra à émerger. C'est invraisemblable aux yeux du sénateur Gourju, mais il veut bien l'admettre un instant. Eh bien, ce sera pour elle un sort pire encore, car la profession d'avocat comporte, dit-il, un déploiement d'efforts physiques considérables dont la plupart des femmes sont incapables.
Hélène Dufulère-Vial, quand arrive-t-on à un accord, à une acceptation de la loi à l'Assemblée nationale et quand arrive-t-on au même résultat au Sénat ?
In fine, il y a à l'Assemblée nationale, donc le 30 juin 1899, 319 voix en faveur de la loi et 174 voix contre. Donc on peut quand même voir que majoritairement, même très majoritairement, les députés ont été convaincus par le rapporteur, par Viviani, par les défenseurs de la cause des femmes. Le projet, il a été soutenu par la gauche, toute la gauche, mais aussi par une partie du centre-droit.
Et au Sénat ?
Alors, au Sénat, la proposition de loi est débattue le 13 novembre 1900. Et c'est intéressant de voir que le discours, en tout cas la défense de la loi, elle bouge un peu. Les accents féministes qui avaient été mis en avant à l'Assemblée nationale ne sont plus là au Sénat. Là, ce qui est mis en avant, c'est que c'est une loi de principe, au nom de l'égalité, mais que ça ne va concrètement concerner que quelques femmes, souvent des femmes célibataires, des femmes d'exception, de milieux privilégiés, mais qu'il ne s'agit absolument pas d'une loi qui va concerner toutes les femmes, que les hommes se rassurent. Voilà. Il s'agit juste de faire une loi de principe au nom de l'égalité républicaine, mais on rassure sur les contours. Et par ailleurs, il y a un autre argument qui est développé au Sénat qui va beaucoup nous intéresser pour voir ce qui va se passer par la suite. C'est aussi cette idée que les femmes, avec leur spécificité féminine, donc là on est sur un discours très essentialliste sur les femmes, hein, vont s'occuper de contentieux de femmes et seront notamment très bonnes pour défendre les mères et les enfants. En face, les arguments sont horriblement machistes. Néanmoins, les sénateurs vont être convaincus. Donc 172 voix votent en faveur de la loi et 34 voix contre. Donc là encore, au Sénat, les arguments ont convaincu.
Michel Dassas, la loi qui permet à une femme d'être avocate est votée le 1er décembre 1900. Jeanne Chauvin, que fait-elle après ?
Ben, il faut qu'elle prête serment. Donc elle va prêter serment et le 19 décembre, elle va être, après avoir prêté serment, et donc on va la prendre en photo, la photo qui est sur mon ouvrage. On a très peu de photos d'elle, mais là elle pose dans sa robe d'avocat. Elle est avocate, elle va pouvoir enfin plaider et aider les autres. Parce que c'est ça aussi, c'est une femme qui ne pense pas tellement à elle. Elle pense aux autres, à tout ce qu'elle peut faire pour aider les autres femmes. Elle a déjà un certain âge à l'époque. Elle a consacré toute sa vie à ses études, à ses combats. Elle n'a pas l'intention de fonder un foyer. Elle va se consacrer à aider les autres.
Vous savez que je suis aussi professeure de droit dans les lycées jeunes filles de Paris.
Jeanne Chauvin.
Eh bien, je constate que les femmes sont remarquablement douées pour l'étude du droit. J'ai corrigé des compositions d'élèves qui m'ont surprise par la rectitude du jugement, la logique serrée, l'élévation d'esprit, la connaissance précise qu'elles témoignent. J'en conclus que si les femmes assimilent si bien une étude agréable et point fatigante, une étude qui est le prolongement naturel de la culture moderne que l'on reçoit dans nos lycées, il est logique de les pousser dans cette voie au lieu de les laisser s'égarer dans les autres. Tenez, je trouve même plus logique qu'une femme se fasse avocate au lieu de se faire médecin. On a beau dire la médecine est impitoyable et déflore la candeur de la jeune fille. L'étude du droit sauvegarde son innocence.
Comment s'est passée sa première plaidoirie ?
En fait, sa première plaidoirie est inattendue. Parce que c'est son frère qui est en charge de la défense de l'aiguilleur Fex dans un procès. Alors, il y avait beaucoup, effectivement, d'accidents de chemin de fer à l'époque. Et là, c'était la catastrophe ferroviaire de Choisy-le-Roi. Du 11 novembre 1900, il y a eu plusieurs morts et beaucoup de blessés. Et plusieurs personnes vont être mises en cause, dont l'aiguilleur Fex. Alors, Émile Chauvin est à l'époque à la fois député et avocat.
Et frère de Jeanne.
Voilà, Émile Chauvin a préparé donc sa plaidoirie. Et au dernier moment, au moment où il doit plaider, il passe la main à sa sœur. Donc c'est effectivement une grande surprise. Mais elle était venue quand même en robe. Elle était à côté de lui en robe. Et c'est là, il n'y a pas de photo, puisque personne ne s'attendait. Elle va donc plaider. Et selon les journaux, sa plaidoirie va être courte. Ça va durer 11 minutes. Mais selon les journaux, elle va parler d'une voix assurée, tout à fait remarquable. Et selon d'autres, on trouve qu'elle récite un peu comme si elle faisait une conférence de droit. Vous voyez, c'est toujours très partagé, en fait.
Le combat de Jeanne Chauvin donne lieu aussi à une chanson, Journal Jeannet.
Oui, dans l'article que j'avais consacré voici longtemps à Jeanne Chauvin, j'avais eu le goût de proposer comme épigraphe cette chanson, un peu ultérieure, elle est de 1905, mais qui est évidemment organisée, proposée autour du cas de Jeanne Chauvin. Elle est épatante, cette petite femme-là. Comment donc elle fait pour savoir tout ça ? Et ça se terminait, elle est épatante, cette petite femme-là. C'est phénoménal, la nature qu'elle a. Et la suite n'est pas moins intéressante. Elle est avocate comme Mlle Chauvin. Elle va même plaider en correctionnel. Hier, je la surprends en rentrant soudain avec un jeune homme en caleçon de flanelle. Je dis, vous me trompez, et dans mon logement ? Rassure-toi, mon loup, mon gros bébé rose. Je te présente monsieur, mon premier client. Il vient me confier une très bonne cause. Elle est épatante, cette petite femme-là. C'est phénoménal, la nature qu'elle a. Et on voit du coup surgir une espèce d'inquiétude, d'angoisse d'un certain nombre de maris qui se disent que si leur épouse va fréquenter des domaines qui lui sont étrangers, loin du foyer familial, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'inquiétude de l'adultère qui apparaît en tant que tel. C'est un des éléments de ce combat-là, parfois dissimulé chez les parlementaires, mais qui les taraude. On l'aperçoit bien et cette chanson le révèle. Michel Simon a d'ailleurs repris cette chanson plus tard, mais elle avait perdu quelque peu de son effet révélateur et à certains égards ravageur.
Elle est épatante, cette petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça.
Aurélie Chanet, vous êtes avocate et vous avez écrit un roman graphique avec la dessinatrice Joïna Amrani qui s'intitule « Jeanne Chauvin, la plaidoirie dans le sang » avec une couverture de combattante. Vous pouvez décrire votre couverture d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. Jeanne Chauvin, la plaidoirie dans le sang. On voulait donner une représentation de Jeanne Chauvin dans l'action, en train de plaider. Pas quelque chose de statique, mais vraiment quelque chose qui représentait tous les combats qu'elle a pu mener en faveur de l'émancipation des droits des femmes.
Jeanne Chauvin dans l'Écho de Paris, juillet 1904.
Si je suis contente de ma profession, mais j'en suis enchantée. Elle me donne les joies de l'esprit, les joies du cœur, et j'ai conscience d'accomplir une œuvre utile. Que de femmes embarrassées n'osent aller confier leurs soucis à un avocat dans la crainte de n'être pas comprises ou par une pudeur intime qui ferme leur âme aux regards étrangers. Elles viennent à moi, nous causons, je les confesse. Alors je puis d'un conseil donné à propos empêcher un malheur. Soit une signature arrachée inconsidérément, soit un acte malhonnête. Voilà le mal arrêté à temps. Elles nous font confiance comme femmes avocats, car elles savent que nos études ont été les mêmes que nos confrères masculins et qu'au palais, notre autorité est la même.
Ma première source d'inspiration a sans conteste été la presse de l'époque, parce que la presse du 19e siècle s'est beaucoup intéressée à Jeanne Chauvin. J'ai pu y retrouver des interviews qu'elle avait données aux journalistes à l'époque, des portraits de Jeanne Chauvin et même des comptes rendus d'audience d'affaires qu'elle avait pu plaider. Elle avait quelques passions, comme la peinture, parce qu'elle était reconnue dans ce domaine. Elle a participé à de nombreux salons à Paris. Elle aimait beaucoup se promener à bicyclette dans les rues de Provins. En ce qui concerne sa vie plus sentimentale, nous savions que Jeanne Chauvin avait perdu son père assez jeune et qu'à l'époque, une femme sans dot trouvait difficilement mari. Surtout lorsqu'elle était ce que l'on pouvait considérer à l'époque comme un bas bleu, c'est-à-dire une femme qui avait fait des études, de longues études, et qui était souvent assez mal perçue en son temps par les hommes. Donc effectivement, Jeanne Chauvin ne s'est jamais mariée. On sait qu'elle l'a parfois regrettée, en tout cas c'est ce qu'elle a pu dire à certains journalistes. Donc elle aurait aimé fonder une famille, mais l'occasion ne s'est manifestement pas présentée.
Les journalistes la dépeignent, enfin quand elle était jeune donc, comme une jeune femme plutôt gaie, plutôt chaleureuse, très bien élevée et déterminée. Sa vie sentimentale reste quand même un mystère parce qu'on n'étalait pas sa vie sentimentale dans les journaux à l'époque. Il n'y avait pas non plus de photos, il n'y avait pas de paparazzi. Mais si elle est restée célibataire, ça c'est sûr, c'est parce qu'elle a vraiment voué sa vie à son travail, à sa cause et à ses clients. Ses clients, j'allais dire patients, parce que c'est vrai qu'elle s'occupait d'eux comme une doctoresse. Ça lui a valu d'ailleurs une fin prématurée. Jusqu'au bout, Jeanne s'est dévouée et elle donnait des aides gratuites. Elle allait dans des quartiers populaires et les gens qui ne pouvaient pas la payer, eh bien, elle donnait des aides. Et voilà pourquoi elle a attrapé la variole.
On peut dire que sa vie a été un apostolat ?
Ben, en quelque sorte, oui, quelque part. Alors quand même, Apostola, elle avait quand même des plaisirs, car elle aimait beaucoup la peinture. Et puis après tout, moi je pense qu'elle peut aussi avoir eu une vie sentimentale, simplement, qui ne nous est pas connue. Elle était jolie, elle était charmante, d'après tous les gens qui l'ont côtoyée, parce qu'il y avait tous ses amis de l'association des lithographes, ils disaient que c'était une femme charmante. Alors après tout, pourquoi pas ?
Jeanne Chauvin, 14 avril 1898.
Je n'approuve pas l'idée d'une académie féminine. Pourquoi cette académie ? Celle du Pont des Arts ne suffit donc pas ? Si des littérateurs de notre sexe se sentent dignes d'être académiciens, que ne posent-elles leur candidature ? Les portes de l'Institut, comme beaucoup d'autres portes, s'ouvriront un jour, soyez-en sûrs, devant la femme. J'ai foi dans le progrès et dans le triomphe du mouvement féministe. C'est pourquoi je désapprouve un projet qui, s'il était mis à exécution, suffirait à crier aux précieuses ridicules et qui témoignerait de la préexistence de deux sexes en arts rivaux. C'est égaux que nous les voulons.
Ma première décision comme bâtonnière du barreau de Paris a été d'inscrire le mot avocate dans notre règlement national. Il faut savoir que nous n'avions pas le droit d'utiliser le terme avocate, même si l'usage a fait que le terme a été progressivement utilisé. Donc symboliquement, ça a été très important et ça a été mon premier acte comme bâtonnière.
Christiane Ferralschul, le barreau de Paris, qui regroupe tous les avocats de Paris, a été créé il y a 8 siècles par Saint-Louis. Depuis, seules 4 femmes se sont retrouvées à sa tête. Comment vous réagissez à ce fait ?
Je crois que très longtemps, on a considéré que c'était une charge tellement lourde qu'elle n'était pas compatible avec une vie professionnelle et une vie de famille. Donc on voit bien tous les arguments qui ont pu émerger. Moi, je me souviens que quand je me suis présentée au Conseil de l'Ordre, ce qui remonte aux années 95, j'ai quand même été interpellée par des femmes qui, à l'époque, considéraient que je ferais mieux de m'occuper de mes enfants que de vouloir devenir membre du Conseil de l'Ordre. Donc on voit bien quand même que culturellement, traditionnellement, il a fallu changer les règles, changer les usages. Tout à l'heure, vous évoquiez Jeanne Chauvin. Moi, ce qui m'a marqué dans son histoire, c'est sa persévérance. Parce que elle s'est présentée, elle avait les diplômes qu'il fallait pour se présenter. Elle s'est quand même battue. C'est cette résistance et cette volonté d'aller jusqu'au bout qui est intéressante. Donc, il a fallu franchir différents caps.
Julia Minkowski, vous êtes avocate et féministe. Il y a plus d'un siècle, Jeanne Chauvin était avocate et féministe. Que vous reste-t-il de son héritage ?
Jeanne Chauvin est la première femme avocate en France. C'est une pionnière par définition. C'est donc un modèle inspirant pour nous tous. Alors, on est évidemment dans une époque très différente où les femmes travaillent pour la plupart. À l'époque de Jeanne Chauvin, c'était non seulement très original et inédit de travailler, et encore plus dans ce métier qui, pendant longtemps après elle, va rester réservé pas légalement, mais en pratique, aux hommes. Moi, je regrette qu'on ne parle pas assez d'elle dans le barreau et dans la société tout entière, quelque part. Il y a quand même ce mouvement de mettre en lumière les femmes pionnières, mais ça reste quand même le fait d'initier. Je ne suis même pas sûre que tous les avocats du barreau de Paris peuvent vous citer le nom de Jeanne Chauvin, alors dans la société française, encore moins.
Christiane Ferralschul, quel est le regard des hommes avocats sur les femmes avocates ?
Je pense que c'est réellement une question de génération. Les jeunes générations sont dans une approche totalement égalitaire avec les femmes avocates avec lesquelles ils travaillent. C'est comme dans les couples, les jeunes générations, il y a un partage des tâches, il n'y a aucune difficulté. Aujourd'hui, on voit bien qu'on rentre dans cette logique. Ma génération et celle d'avant, c'est peut-être plus compliqué. Je me souviens toujours à l'époque où je me suis présentée au Conseil de l'Ordre, il était d'usage au moment du renouvellement des élus, de réserver maximum 2 places pour les femmes. Et quand j'ai été élue, c'était la première fois que nous étions 3 femmes. Et ça avait été vécu comme une avancée extraordinaire. Donc les cultures changent. Je crois que plus on avancera et plus la démarche égalitaire existera. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se battre pour cela.
Julia Minkowski, quels sont vos combats aujourd'hui, vous ?
Alors, quand j'ai commencé à exercer, je ne me posais absolument pas la question de la place des femmes avocates au barreau, puisque je n'ai pas été élevée comme ça. On ne m'a jamais dit qu'il y avait des métiers que je ne pourrais pas exercer parce que j'étais une femme. Et donc, mon modèle était Robert Badinter. Je voulais être pénaliste comme lui. Très rapidement, cependant, en exerçant, j'ai compris que dans ce métier d'avocat pénaliste, qui est un métier fait de beaucoup de légendes et d'histoires, et les avocats se parlent beaucoup et se racontent beaucoup. Et c'est vrai que j'ai compris que dans ces récits, les femmes étaient totalement inexistantes jusqu'à ce que le magazine Paris Match publie une photo sous le titre « L'orchestre du barreau de Paris » avec une trentaine d'avocats, dont une seule femme. Et là, c'est Paris Match, le poids des mots, le choc des photos incarnés. Et j'ai vraiment compris à quel point les femmes étaient absentes dans les médias, dans l'inconscient collectif et dans beaucoup de grands procès. Et qu'il fallait y remédier. C'est une discussion que je pouvais avoir en tête-à-tête avec mes consoeurs, et jusqu'à ce qu'avec 3 consoeurs de ma génération, on se dise, bah, en fait, on va créer quelque chose, on va créer le club des femmes pénalistes, et à partir de là, on a mené un certain nombre d'actions pour mettre en lumière la place des femmes et faire passer le message à tout le monde que non seulement les femmes pénalistes existent, mais qu'elles n'ont rien à envier aux ténors, même s'il n'y a pas de mots pour les décrire. Et mon sentiment, c'est que quand même, depuis le moment où on a créé le club des femmes pénalistes, les choses ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Pendant longtemps, je disais que le fait que Jacqueline Lafont défende Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a vraiment été un tournant, puisque si un ancien président de la République donne sa confiance pour être défendu devant un tribunal correctionnel à une femme, ça fait progresser les choses. Et il faut reconnaître à Nicolas Sarkozy cela. Et puis, certainement que la nouvelle génération de femmes accepte moins de rester derrière des hommes à porter leurs valises, à préparer leurs dossiers sans jamais soit plaider, soit dans le cadre d'affaires médiatiques, apparaître, prendre la parole, s'engager. Et donc, tout ça a participé d'une évolution et aussi à la faveur des affaires en pénal de violences faites aux femmes et de leur médiatisation. Je constate que beaucoup d'hommes accusés ont préféré choisir d'être défendus par des femmes dans une réflexion stratégique, hein, il faut le dire, mais qu'au final, ça a permis à un certain nombre d'avocates de s'exprimer sur ces sujets, d'être beaucoup plus souvent invitées dans des émissions, dans des débats, et ça a participé à les faire connaître, oui.
« Il y a actuellement beaucoup de grandes affaires judiciaires que l'on voit d'ailleurs dans les médias où les hommes sont souvent les accusés. Ce sont les femmes qui les défendent et qui les défendent fort bien. Comment réagissez-vous à cette nouvelle situation ?
Alors, ça peut être stratégique, mais ça participe d'une démarche égalitaire. Mais je crois qu'il faut faire attention à ce genre de situation. Je me suis retrouvée, moi, dans une affaire dans laquelle mon client était le seul homme. C'est-à-dire que la juridiction était composée de femmes. Il y avait une femme procureure, il y avait une greffière. Il n'y avait que des femmes. Même mes adversaires étaient des femmes. Et c'est vrai que ça peut créer un déséquilibre. Alors les femmes l'ont vécu pendant des générations. Aujourd'hui, la règle change. Et je trouve que des hommes choisissent des femmes pour les défendre est une marque quand même d'une évolution intéressante et significative.
Hélène Dufulère-Vial, comment est-on passé de cette première femme avocate, cette pionnière qui est Jeanne Chauvin, à aujourd'hui 60% de la profession qui est représentée par des femmes, donc à cette féminisation de la profession d'avocat?
Alors, effectivement, on est plus d'un siècle après l'arrivée des premières femmes au barreau. Et la situation, depuis 2010, a atteint l'équilibre, voire s'est inversée au profit des femmes. Dans le sens où, aujourd'hui, de par leur nombre, les femmes sont plus nombreuses au barreau que les hommes. Ce qui est intéressant, c'est que, même si l'égalité est atteinte, voire dépassée, d'un point de vue statistique, quand on affine le regard, quand on affine les statistiques, on voit que le processus de féminisation n'est pas achevé, dans le sens où les femmes avocates sont aujourd'hui encore payées de manière globale, deux fois moins que les hommes. Les femmes se heurtent à ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire que si elles sont majoritaires à prêter serment et à être en poste, elles se retrouvent davantage parmi les collaboratrices que parmi les associés, voire les associés principales des cabinets. Et elles sont aussi confrontées à une répartition genrée des contentieux. C'est-à-dire qu'on trouve davantage les femmes en droit de la famille, en droit social, donc des disciplines qui sont assez, alors pas dépréciées hein, dans les faits, mais dépréciées de par, en tout cas, la rémunération. Hein. Ce sont des disciplines qui sont moins rémunératrices que d'autres disciplines du droit, notamment, par exemple, le droit des affaires. Là, les statistiques en droit des affaires montrent une très, très, très faible part des femmes, alors qu'il s'agit d'un domaine les plus rémunérateurs du droit. Et en droit pénal, on trouve aussi, et c'est là où il faut regarder de manière assez fine, une répartition genrée du contentieux pénal. Après, les pénalistes sont dans le combat, donc les choses changent, mais le processus de féminisation n'est toujours pas achevé.
Julia Minkowski, vous qui êtes féministe, aujourd'hui dans la profession d'avocat, 60% sont des femmes. Pensez-vous que ce mouvement va encore s'amplifier ?
Je ne le souhaite pas forcément parce que de façon générale, je trouve que c'est bien qu'il y ait un équilibre. Dans la magistrature, il y a une majorité écrasante de femmes. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. L'équilibre est toujours ce qu'il y a de mieux. Je pense que c'est justement une profession qui, selon moi, n'a absolument aucune raison d'être genrée, pas plus que d'autres, et qu'on a souffert de ces stéréotypes liés à la plaidoirie qui aurait été l'apanage des hommes, et que ça y est, c'est presque terminé, pas encore tout à fait. Donc, un équilibre entre hommes et femmes dans la profession, c'est bien.
Michel Dassas, où et quand est décédée Jeanne Chauvin ?
Alors Jeanne Chauvin est décédée à Provins en 1926. Elle n'avait que 64 ans. Elle aurait pu vivre encore très longtemps. Elle n'était pas en mauvaise forme physique. Simplement, elle avait contracté la variole à Paris quelques semaines plus tôt. Elle est morte des suites de cette maladie. À Provins, dans sa ville, où elle aimait venir se ressourcer.
Jeanne Chauvin a été décorée avant sa disparition.
Ah oui, oui, elle a reçu la Légion d'honneur des mains du président, de l'ancien président Raymond Poincaré, qui était son parrain. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire pour elle, justement en janvier 1926, l'année même de sa disparition. Mais l'année précédente, elle avait aussi été mise à l'honneur lors du jubilé des avocates. Donc, deux années de suite où on a vraiment reconnu que c'était elle qui avait ouvert la voie et qu'on lui devait beaucoup.
Luc Duchamp, elle ne nous quitte pas, Jeanne Chauvin, avant notre départ de Provins, parce que là, nous sommes à côté de la gare. Et puis, elle est là, Jeanne, sur une armoire réservée à l'électricité. Hein. Elle est, comme on l'imagine, très bien dessinée au pochoir. Elle a sa robe noire, elle a son petit chignon, elle nous regarde. C'est 215, c'est cet homme-là, c'est cet artiste urbain qui est venu la dessiner ici avec son pochoir.
Exactement, c'est Christian Guémy, pour le citer plus précisément, alias C215, qui est à l'origine de ce portrait et d'une vingtaine d'autres portraits qui scandent un parcours de visite de Provins autour des personnalités de la ville. Je crois que le combat de Jeanne Chauvin, j'en suis même intimement convaincu, n'est pas terminé. D'autres femmes le poursuivent pour inscrire la femme à l'égalité de l'homme dans notre monde contemporain. Et c'est en cela que Jeanne Chauvin reste un personnage peut-être oublié, dont il faut raviver le souvenir, parce qu'elle a eu ce rôle de pionnière et ce rôle garde toute son importance aujourd'hui.
Eh bien, bon week-end, on va se reposer. La séance est levée.
C'était Jeanne Chauvin, le barreau féminin, avec Luc Duchamp, Michel Dassas, Jean-Noël Jeannet, Hélène Dufulervial, Aurélie Chanet, Christiane Ferralschul et Julia Minkowski. Merci à Cindy Gerassi. Texte de Jeanne Chauvin, lu par Valérie Caprisky. Documentation Radio France, Corinne Chauvel, Véronique Le Faller, Antoine Villoz. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Dominique Prusac et François Teste.